Donc voilà, un peu comme Marc disait, malheureusement, j'ai un peu la grippe, je suis un peu grippé, mais ça peut être quelque chose de négatif, mais en même temps, ça peut être quelque chose de positif. Et moi, je le vois comme quelque chose de positif présentement parce que j'ai été ici pendant 12 jours jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite dans le coin de Vancouver, dans la banlieue de Vancouver, mais je viens au Québec quelques fois par année. En fait, cette année, je vais être venu 4 fois. C'est quand même assez spécial de cette distance-là, de venir aussi souvent puis d'être aussi souvent avec vous. Mais je viens ici pour faire le contact beaucoup avec les églises, les donateurs, venir être à des conférences qui ont rapport à la mission ou à la jeunesse, comme One qu'il y avait la semaine passée. J'ai eu l'opportunité de donner un cours à l'ETEC la semaine passée sur les principes de la traduction de la Bible. Et toutes sortes d'opportunités pour partager un peu la mission de Dieu qui se fait à travers la traduction de sa parole, la traduction de la Bible dans le monde. Donc, je travaille avec l'association Wycliffe, qui est pour la traduction de la Bible. Et je trouve ça quand même assez incroyable de pouvoir venir ici et de partager aussi régulièrement, mais de faire avancer, aider à faire avancer le royaume de Dieu dans le monde à travers la traduction de la Bible et d'encourager les Québécois à s'y joindre. Je trouve que c'est quelque chose d'assez spécial. C'est un temps spécial d'être au Québec. Le nombre de contacts qui se créent, l'enthousiasme que je vois dans les églises, puis dans la jeunesse, puis dans différentes personnes avec qui je parle de façon régulière quand je viens ici, de voir à quel point ils veulent s'impliquer dans quelque chose qui est le Québec et les besoins du Québec, mais aussi quelque chose qui sort du Québec et qui est plus grand que nous. Je crois que c'est quelque chose de biblique, puis c'est quelque chose d'encourageant de voir que ça se passe et que les gens ont un désir de faire ça. Donc, ce matin, j'espère faire quelque chose j'espère qu'il va être intéressant pour vous. Marc me disait que vous passiez à travers le livre d'Actes des Apôtres. Et il m'a dit, si tu veux faire une présentation, prêcher à l'église, est-ce que tu serais capable de continuer un peu dans cette série-là pour nous, mais aussi de faire un lien avec ton ministère et de parler de la traduction de la Bible? Donc, j'ai fait, OK, on accepte le défi. Et j'ai choisi un passage dans le début du livre d'Actes des Apôtres que je trouve qu'il se relie très bien à quelque chose que j'espère vous allez voir l'importance de ce passage-là et de la signification du passage aujourd'hui, même si ce n'est peut-être pas notre réalité à nous ici au Québec ou pour moi à Vancouver, mais que c'est une réalité dans le monde. Et je veux vous montrer un peu comment est-ce que Wycliffe travaille là-dedans en même temps. Donc, on va lire un passage. C'est quand même assez long. On va le lire au complet. C'est un texte un peu narratif, donc... Je vais prendre le temps de le lire. Merci. C'est ça que je cherche. Et on va passer quand même rapidement à travers, après, au niveau de ce que ça dit et qu'est-ce qu'on peut apprendre. Je vais juste en sortir quelques principes importants que je crois... Quoi? Le projecteur est là? Non, c'est pas une valeur. Qu'est-ce que c'est? Attention. Hein? Alex essaie de me tromper dans ce que je fais. Il me dit de pointer les choses au projecteur, malgré que c'est supposé être à l'arrière. Arrête. OK, Actes 5, versets 12 à 42. Okay. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple parmi les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc, on a un petit peu un contexte d'un passage qu'on va regarder plus en profondeur après, mais il y a des miracles qui se passent. Il y a des gens qui sont guéris, il y a des choses incroyables qui arrivent. Des gens veulent au moins être sous l'ombre de Pierre quand ils passent, en espérant être guéris. Le texte ne nous dit pas nécessairement si chacun qui passait sous son ombre était guéri nécessairement, mais c'est quelque chose, ça montre un peu comment les gens voyaient Pierre et les autres apôtres et leur ministère et la puissance qui était démontrée par leur ministère, qui fait guérir des malades. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël. Ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Ce passage, ça, cette section-là, c'est facile de passer par-dessus tout ce qu'il y a comme action et tension dans ces versets-là. Ça peut se lire rapidement sans réaliser que... Hey, peux-tu retourner en arrière? Oh yeah! Pardon? Vers l'arrière, oui. Est-ce que vous avez vu dans ce texte-là, les apôtres ont été jetés en prison, mais un ange les a permis d'en sortir, donc ils sont échappés de prison et sont retournés dans le temple pour continuer à prêcher. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Continue. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Théudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, il parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu dans ce passage-là. On pourrait en parler pendant des heures, mais il y a quelques principes que je veux en retirer parce que c'est une situation qui peut être difficile pour nous de voir, OK, ils sont fait jeter en prison, ils se sont fait battre par des verges parce qu'ils ont prêché l'Évangile, mais est-ce que c'est quelque chose qui nous arrive aujourd'hui, nous, si on allait à Montréal puis qu'on commençait à prêcher dans les rues? Probablement pas. Peut-être, mais probablement pas. Ça me surprendrait bien gros. Mais dans le contexte du passage, on voit, si on regarde même, si on retourne dans Acte 4, on voit quelque chose de quand même assez spécial. Ils ont été jetés en prison à la suite, après avoir guéri quelqu'un, après que Dieu ait utilisé les apôtres pour guérir quelqu'un qui était malade. Et ils ont eu leur première comparution devant le Sanhédrin dans le chapitre 4, où est-ce qu'ils ont une fois déjà défendu l'Évangile. Et le Sanhédrin, le groupe de juges religieux, les a empêchés de partager l'Évangile. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un ange du Seigneur qui est venu, leur a ouvert la porte et leur a permis de sortir et leur a donné l'instruction de retourner dans le temple et d'enseigner, continuer à évangéliser, continuer à partager la parole de Dieu, continuer à parler du salut, de l'Évangile et de l'espoir qu'on a en Jésus. Mais dans le contexte qu'on voit avec toutes les guérisons et toutes les différentes étapes qui sont produites, toutes les différentes choses qu'on voit depuis le début du livre d'Actes des Apôtres, les gens qui ont parlé en langue, si on regarde le début du chapitre 5 qu'on n'a pas lu, mais Ananias et Saphira qui ont été tués parce qu'ils avaient menti par rapport à leur don qu'ils avaient fait. Il y a toutes sortes de choses assez radicales qui se passent. Si on y pense, là, c'est pas des choses qu'on voit de nos jours normales, que des gens meurent parce qu'ils ont menti. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort parce qu'il a menti? Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui ont parlé en langue? Peut-être, ça se pourrait bien. D'autres de nous, on ne le voit peut-être pas aussi souvent qu'on le croirait, mais c'est une façon que Dieu utilisait pour partager l'Évangile, partager sa vérité à des gens dans leur langue maternelle, dans la langue qu'ils comprendraient. On voit des gens qui sont guéris, des gens qui se donnent pour apporter une guérison physique aussi à des gens. Est-ce qu'on voit ça de façon régulière aujourd'hui? Peut-être qu'il y en a, qui ont la chance ou l'opportunité de voir ça, d'avoir cette expérience-là. Mais la plupart d'entre nous, je dirais, ce n'est pas des choses qui sont normales pour nous de façon régulière. Et le premier point que je vais apporter par rapport à ce contexte-là, c'est là où les choses radicales se passent pour Dieu, l'opposition augmente. On le voit clairement dans ce texte-là. On continue. La section principale que je trouve assez radicale par elle-même, c'est dans les versets 29 à 32. En fait, je vais peut-être y retourner, si ça marche. Ah, voilà. 29 à 32. Donc, on a vu, ils sont devant le Sanhédrin, Pierre et les apôtres, et ils défendent l'Évangile. Ils défendent pourquoi ils sont là, pourquoi ils continuent à défendre l'Évangile ou à partager l'Évangile, même si ça ne leur est pas permis, ça leur a été défendu de partager l'Évangile. Et leurs paroles sont assez puissantes. Ils disent, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. » Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ses paroles, il voulait les faire mourir. Ça, c'est pour moi le centre du passage sur lequel je vais me concentrer rapidement. C'est, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Est-ce que la Bible nous enseigne d'être anarchiste? Non, Dieu est un Dieu d'ordre, de structure, avec il aime que les choses soient bien faites dans un ordre, avec un plan et tout ça, et un respect des autorités. Il nous demande, on voit des passages où il nous dit de prier pour les gens qui nous dirigent. Il y a différents exemples qui nous montrent dans la parole de Dieu que l'anarchisme, c'est pas ce qui est démontré ici en disant il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce qui nous est montré, c'est l'Évangile doit être partagé, peu importe ce que les hommes disent. C'est Dieu qui nous donne cette vérité-là. Il nous donne la responsabilité d'en partager à toutes les nations, à tous les peuples. Peu importe ce que les hommes vont dire qu'on a le droit de faire ou pas par rapport à ça. Ça va au-dessus, la souveraineté de Dieu monte au-dessus de la loi des hommes. Les versets 30, 31 et 32, je crois que ça a dû créer une méchante tension dans le Sanhédrin. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué. OK? La responsabilité étant mise sur les responsables juifs d'avoir tué Jésus. Il avait dit la même chose dans le chapitre 4. Ça dit... non, c'est où que ça dit ça? Dans le chapitre 4, la fois d'avant, où est-ce que Pierre, Jean et les apôtres se présentaient devant le Sanhédrin, ils disaient « C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » En tout cas, le contexte est différent, mais c'est dit « Vous avez crucifié Jésus de Nazareth. » Ça fait une couple de fois qu'il leur dit déjà « C'est vous qui l'avez crucifié et qu'il le remet sur eux. » Donc, imaginez d'avoir été blâmé pour ça. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Élevé à sa droite, est-ce que ça vous rappelle quelque chose que Jésus aurait possiblement dit au temps qu'il a été mis à mort? Luc 22, 67, ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Il lui répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Ça faisait pas longtemps que Jésus avait été crucifié, qu'il avait passé à travers tout ça, et que lui-même, il disait que quand il allait être crucifié, il était à la droite de Dieu. Eux, ils leur répètent encore une fois, non seulement vous l'avez tué, mais il est à la droite de Dieu. Eux, c'était clair le parallèle qu'il était en train de faire quand il disait ça. Non seulement ça, mais par sa droite, comme prince et sauveur. Prince, l'autorité qui vient avec l'autorité d'un prince, en train de dire ça aux juges, aux Sanhédrin, les gens qui jugent le côté religieux de ce qui se passe, il est en train de leur dire que, dans le fond, il y a une autorité encore plus grande que la vôtre. Et comme sauveur, le pardon des péchés, ça c'était une grosse affaire qui était controversée quand Jésus prêchait qu'il pouvait pardonner les péchés. Il y a un exemple de ça encore dans Luc 5, 20 à 24, je vais vous le lire. Ça dit, voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire, « Lève-toi et marche. » En tout cas, on n'a pas besoin de lire le prochain verset, mais il y a des tensions, c'était blasphématoire pour les pharisiens d'entendre Jésus dire que je pardonne des péchés. Mais il répète encore, il est sauveur, il peut pardonner nos péchés. Et c'est ça qu'il a dit dans la prochaine section aussi, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Eux, ils l'ont vu. Eux, ils ont eu l'expérience de voir Jésus crucifié et sa résurrection. Mais parfois, on peut prendre nous-mêmes notre expérience comme étant quelque chose de supérieur à ce que la parole de Dieu nous dit ou nos expériences qu'on vit et on ne compare pas nécessairement à la parole de Dieu. Et ça peut être problématique si notre expérience nous-mêmes de vie devient supérieure ou devient la vérité qui dépasse ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, il faut tout le temps comparer nos expériences à ce que la parole de Dieu nous dit. Mais ça dit, nous sommes témoins de ces choses, donc on l'a vu, de même que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et confirme que leur expérience qu'ils ont vue, qu'ils ont vécue, est vraie. Il faut qu'il y ait de la méchante tension pour que, ensuite, la prochaine chose qui arrive, ils disent, furieux de ces paroles, ils voulaient le faire mourir. Ils voulaient les faire mourir, là. C'était pas, on est fâché, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Puis ça, c'était non. Hey, tu es en train de nous dire ça, on va te tuer. On va vous tuer. Ça vaut la peine d'être mis à mort pour ça. Donc, ils ont pris un risque quand même assez incroyable en participant au partage de l'Évangile parmi le peuple d'Israël, malgré le fait qu'il n'y avait pas le droit, malgré le fait qu'ils avaient été mis en prison, qu'ils ont été sortis par un ange et que le risque, c'était leur vie. Donc, le point numéro 2 que je veux sortir de là, c'est la vérité sera toujours confrontée par ceux qui se font dire qu'ils ont tort. La vérité sera toujours confrontée par ceux qui se font dire qu'ils ont tort. C'était la jalousie que le texte nous dit, qui forçait les Sadducéens à emprisonner les apôtres. Ça dit même un peu plus tôt dans le passage, je ne sais pas si ça marche pour retourner. Come on, un autre. Capable. Oh, hey, il est retourné. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Ouais. Par en arrière, un de plus, je pense. Oh non, attends, retourne en avant. En tout cas, whatever, ça bouge trop, je suis pas capable de le retrouver, mais dans le fond, c'est un passage qui dit, qui disait, ils ont apporté sans, faudrait que je trouve le verset, mais ils ont apporté devant le Sanhédrin, mais sans violence. Oui. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. C'est pas les apôtres qui avaient peur d'être lapidés par le peuple s'ils venaient sans violence, s'ils venaient avec violence ou peu importe. C'était le Sanhédrin qui voyait le soutien que le peuple avait pour les apôtres qui prêchaient l'évangile et la guérison et tout ce qu'ils voyaient arriver, que s'ils voyaient que le Sanhédrin les apportait et qu'il y avait que les apôtres se débattaient et tout ça, et qu'il y avait de la violence qui était faite contre eux, le peuple voudrait peut-être lapider les dirigeants. Ça dit pas que ce serait les apôtres qui étaient lapidés, parce que le peuple soutenait le ministère qu'il est en train d'avoir. Le troisième point, c'est les promesses de Dieu s'accompliront peu importe les efforts ennemis. Si on lit versets 34 à 40, ah parfait, merci, Gabriel, c'est bon. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Théudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. » Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Est-ce que Gamaliel, dans cette partie-là, il est en train de dire, « Hey, ils viennent de Dieu, faites-leur rien. » Ou est-ce qu'il est en train de leur dire, « Je ne crois pas qu'ils sont de Dieu, donc laissons-les partir. » Et si quelque chose leur arrive, ça va arrêter anyway. Mais risquons pas de prendre la place de Dieu en faisant quelque chose contre eux. Moi, je crois que c'est la deuxième partie, la deuxième chose que j'ai dit. Je crois pas que Gamaliel, parce que le texte nous dit pas qu'il était croyant ou il nous dit pas qu'il est venu au Seigneur ou qu'il s'est repenti ou qu'il a retrouvé l'espérance. Ça dit simplement, voici des exemples où est-ce que des gens qui disaient travailler au nom du Seigneur se sont fait tuer et que toutes les gens qui les suivaient se sont dispersés, se sont dissipés, le mouvement a arrêté. Donc, laissons-les aller parce que, anyways, ça va arrêter par soi-même. Nous voici 2000 ans plus tard. Ça n'a pas arrêté. Donc, c'est peut-être juste un survol rapide de ce texte-là, mais je veux vous montrer, je voulais juste simplement prendre le temps de passer à travers un texte qui montre il y a des gens dans ce temps-là, après la crucifixion et la résurrection de Jésus, qui ont vécu des choses où est-ce que leur vie était en danger à cause de leur foi et à cause du partage de l'Évangile. Ils étaient prêts à mourir pour Jésus. Mais est-ce que c'est quelque chose que nous, on vit de nos jours ici? Pas vraiment. Mais est-ce que ça se passe à quelque part d'autre dans le monde? Est-ce que ça se passe à quelque part d'autre dans le monde? Oui, de façon régulière. Et c'est un peu vers ça que je veux qu'on se dirige ce matin. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ah, voilà, ça, c'est mes trois points. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui au niveau de ce genre de persécution-là ou ce genre de difficulté-là? Avez-vous déjà remarqué, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des statistiques ou quelqu'un qui a lu des chiffres comme ça, mais qui parle de où les places où est-ce qu'il y a le plus grand nombre de croyants, le nombre de croyants augmente le plus rapidement. Avez-vous déjà regardé une liste comme celle-là? Ça, c'est les pays dans lesquels la population chrétienne évangélique augmente le plus rapidement. Numéro 1, Iran. Numéro 2, Afghanistan. On peut continuer. On pense souvent à des pays musulmans, tu sais, Algérie, Somalie, c'est notre place. Regardez la liste. Ça, c'est les top 40. Et le pourcentage d'augmentation du nombre de croyants en une année. Et en Iran, 19,6% plus de chrétiens après un an. C'est une méchante augmentation. Je crois que les plus grands mouvements chrétiens et les plus grands mouvements de réveil, ça arrive là où il y a le plus de persécution, là où les gens essaient le plus de l'arrêter. Dans le temps où est-ce que Pierre et les apôtres, ils partageaient l'évangile et tout ça, c'était par milliers que les gens venaient au Seigneur. Ah! Rapidement, voici les régions dans lesquelles Wycliffe travaille présentement. Wycliffe Canada, la partie canadienne, nos projets clés. On peut en voir qu'il y en a un au Canada, il y en a deux qui sont au Pérou en bas à gauche, il y en a trois en Afrique centrale environ, et ensuite, quand on se dirige un peu plus vers l'Est, l'Asie, le Pacifique et tout, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a deux différentes couleurs d'étoiles. Il y en a des verts et il y en a des rouges. Les verts, c'est des places où est-ce qu'on travaille, où que l'accès est facile. On peut y aller, ça prend juste un visa, il n'y a pas de problème, on rentre, on fait notre travail, on arrive dans une communauté, le travail peut avancer, c'est pas trop difficile. Les places rouges, c'est des places où est-ce qu'on n'a pas le droit de travailler. OK? Il y en a 5 sur... On a 13 projets clés présentement. Je pensais que c'était 14, mais il y en a un qui vient de terminer. 5 sur 13 de nos projets clés de Wycliffe Canada sont des places où est-ce que c'est illégal de faire le travail qu'on fait. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on devrait arrêter, on devrait sortir de ces régions-là ou est-ce qu'on a l'autorité de dire « Oui, on va continuer ce travail-là » parce que l'autorité qui vient de Dieu surpasse cette autorité-là humaine qui nous dit que « Non, vous n'avez pas le droit de traduire la Bible. Non, vous n'avez pas le droit d'évangéliser. Non, vous n'avez pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. » Lequel est-ce qui est correct de faire? Je pense que d'après le passage qu'on a vu, on a l'autorité de dire on va venir dans le pays anyway et on va faire ce travail-là parce qu'on a la responsabilité d'apporter l'Évangile à tous les peuples, toutes les nations de la terre. Donc voilà, nos projets internationaux, on en a 2 au Pérou, 2 en Thaïlande, on en a 1 au Cameroun, il y en a 2 en République démocratique du Congo, il y en a 1 au Canada, mais nos projets à accès limité... On change les noms, on ne peut pas vous dire où est-ce que c'est à cause du danger, justement, pour les gens qui travaillent dans ces régions-là. J'ai laissé les noms anglais parce que je me suis dit, bon, mais la plupart, ils ne veulent rien nous dire. Anyways, SRA, c'est sur la route de la soie. C'est un peu plus vers l'ouest en Asie, proche du Moyen-Orient. Kinsha, c'est dans des pays qui sont autour de la Thaïlande, pas en Thaïlande elle-même, mais si vous connaissez un peu la situation politique aux alentours, vous comprendrez que c'est une région qui est quand même assez difficile d'accès pour les croyants. Cuesta et Keybox, c'est en Est, on dit l'Asie de l'Est. C'est général, mais ça, c'est aussi, ça peut vous dire que bien des affaires. Island Advance, c'est une île dans le Pacifique dans laquelle on travaille, dans un pays. En fait, je peux vous dire c'est quel pays. C'est en Indonésie, mais je ne vous dirai simplement pas dans quelle île parce qu'il y en a 16 000. Fait. Bonne chance. Mais juste pour vous donner une idée, on peut pas nommer le nom des places parce que on met non seulement... Il y a des possibilités d'emprisonnement ou des possibilités de danger pour les missionnaires qui sont là, mais normalement, ce n'est même pas pour les missionnaires qui sont là qu'il y a le plus grand danger, mais pour les gens de la place qui participent dans l'œuvre avec nous. Donc, c'est une protection plus pour les gens de la place que pour nous-mêmes. Et je vous dirais, le nom Cuesta a dû être changé une fois parce qu'il y a une église, justement, dans une situation comme celle-ci, que quelqu'un a fait une belle présentation. L'église était bien enthousiaste par rapport au projet. Ils ont mis le PowerPoint, ils ont mis la prêche, ils ont mis toute l'information sur leur site web pour que ça soit disponible pour tout le monde par après. Et ça, c'est ce qu'on a réalisé par après, qui était arrivé et que c'était possiblement en lien avec ce qui se passait. Mais pas trop longtemps après que ça soit arrivé, les gens sur place, dans le projet, nous disaient... On sent surveillé. On sent plus de tension dans la région que d'habitude. On sent qu'il y a des gens qui viennent nous voir, nous posent des questions et on se dit c'est qui eux? Pourquoi est-ce qu'ils viennent nous déranger maintenant? Pourquoi est-ce qu'il se passe ci puis ça? Et il a fallu qu'on fasse nos recherches pour voir qu'est-ce qui serait peut-être passé pour dire que il y aurait un lien ou pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette région-là. Je ne peux pas vous dire c'est où, mais c'est dans l'est de l'Asie. Je vais. pour vous donner une idée à quel point c'est sérieux ou c'est dangereux, je veux vous lire les 10 commandements que une de mes amies avec qui j'ai étudié, qui vient de partir pour le Moyen-Orient récemment, ça fait à peu près un mois, elle vient de partir pour faire de la traduction de la Bible au Moyen-Orient et elle nous a donné une liste de 10 commandements sur comment communiquer ou comment ne pas communiquer avec elle. Okay? Je vous dis ça. Dans vos courriels, dans vos messages que vous m'envoyez, s'il vous plaît, ne pas utiliser les mots M, missionnaire, mission, travail missionnaire, etc. S'il vous plaît, ne pas parler négativement à propos du pays dans lequel je me trouve ou parler négativement du gouvernement d'où provient mon visa. Numéro 3. S'il vous plaît, ne parlez pas négativement des grandes religions du pays dans lequel je me trouve. Numéro 4. S'il vous plaît, dans vos courriels, n'utilisez pas de termes faisant référence au combat spirituel. Ça peut sonner comme des rumeurs ou des discussions incitant à une révolution politique. Numéro 5. S'il vous plaît, dans vos courriels, ne mentionnez pas Wycliffe Bible Translators, mais plutôt SIL, l'organisation avec laquelle je travaille outre-mer. Pour avoir accès à certains pays qui sont fermés au travail missionnaire, fermés au christianisme, il y a deux organisations sœurs qui travaillent ensemble. Wycliffe, pour la traduction de la Bible, c'est clairement la traduction de la Bible qu'on fait, et SIL, ça veut dire Summer Institute of Linguistics, mais c'est une organisation qui fait la linguistique et se concentre plutôt sur le niveau académique. Donc, si on rentre sous le nom de SIL, c'est bien reconnu comme étant du travail plutôt académique qui a pour but de mener à la traduction de la Bible, mais c'est reconnu dans le monde séculier aussi comme étant une bonne ressource académique. Et ça permet d'entrer et de travailler dans des universités, d'avoir des visas comme professeur, enseignant, ci et ça, dans des régions où est-ce que si on arrivait et on disait « Je travaille avec Wycliffe Bible Translators », ça serait plutôt évident quel genre de travail se fait faire là. Numéro 6. S'il vous plaît, ne parlez pas de la région spécifique dans laquelle je travaille, mais plutôt la région générale. Pour elle, c'est le Moyen-Orient. Et quand on veut parler de la région spécifique dans laquelle elle travaille, elle dit, appelez ça Narnia, pour ceux qui connaissent C.S. Lewis. Donc, toutes ces lettres de nouvelles, elle explique ce qui se passe à Narnia de nos jours. C'est le nom qu'elle a trouvé pour avoir un nom code pour la région dans laquelle elle travaille. Elle dit aussi, s'il vous plaît, utilisez des termes créatifs lorsque vous parlez de notre foi commune. Parler de pensée semblable ou croyant au lieu de chrétien. Dites père au lieu de Dieu, frère au lieu de Jésus. Traduction des Écritures, traduction de la parole au lieu de traduction de la Bible. Se joindre à la famille au lieu de converti. Inviter de se joindre à la famille au lieu de prosélytisme ou évangélisation. Et partager, entre guillemets, la bonne nouvelle, mais partager au lieu d'évangéliser. Huitième point, ne partagez pas mes lettres de nouvelles ou d'autres informations portant à mon travail sur Internet. Numéro 9, ne parlez pas de mon travail de façon détaillée et ne partagez pas mes courriels avec des personnes que vous ne connaissez pas très, très bien. Et 10, finalement, veuillez relire vos courriels avant d'appuyer sur « Envoyer » pour vous assurer que vous respectez ces 9 autres règles de communication. C'est sérieux, là. Au point où est-ce qu'elle envoie cette lettre-là à tous ses donateurs, à tous les gens qui veulent prier pour elle, elle dit, il faut que vous vous teniez à ça, parce que sinon, moi, je peux être en danger, et aussi les gens avec lesquels je travaille. Ça vous donne une idée, un peu. Donc, je vais vous parler un petit peu de quelques régions dans lesquelles on fait ce travail-là, où est-ce que ça se passe exactement, ce genre de persécution-là et ce genre de difficulté-là. Le SRA, Silk Road Ascent, c'est une région justement dans l'ouest-sud-ouest de l'Asie, proche du Moyen-Orient, où est-ce qu'on sait, ça a été publicisé et ça a été dans les médias, il y a des extrémistes islamiques qui sont sortis de ces régions-là et qui ont participé dans des attentats. Donc ça, c'est le genre de place où est-ce qu'on a des missionnaires qui travaillent présentement pour apporter la parole de Dieu. On parle de 4 langues avec lesquelles on travaille présentement qui sont des langues minoritaires, des langues plus petites que la langue nationale dans ces pays-là, mais qui sont parlées au total par 60 millions de personnes. Donc, minoritaires, avec un peu de perspective pour dire, c'est quand même des langues très importantes ou qui peuvent rejoindre beaucoup, beaucoup de gens avec un potentiel quand même assez incroyable. On connaît, par contre, peut-être environ une vingtaine de croyants parmi ces 60 millions-là. Dans ces endroits-là, la vie d'un nouveau croyant, c'est quand même assez différent de ce que nous, on vit ici. Eux, ils sont vus comme reniant leur famille, reniant leur culture, reniant leur tradition, reniant leur pays, reniant leur religion. Ça, c'est le genre de choses, quand tu dis « je suis chrétien maintenant, j'ai trouvé foi en Jésus », c'est les choses que leur famille, leur communauté comprennent et ils se font mettre en dehors de leur communauté ou ils peuvent même se faire tuer par leur famille. C'est des choses qui arrivent assez régulièrement. c'est quelque chose que nous, on a vu, pas qu'on a vu récemment, mais quelque chose qui était arrivé, qui était, on se posait des questions à notre église à Langley. Il y a une femme qui venait pas de cette région-là, mais qui venait de l'Inde. Et la famille de son mari était un petit peu plus extrême que la norme. Et lorsqu'elle est devenue chrétienne et qu'elle a quitté, je ne sais pas si elle était sikh ou elle était, ou c'était de la religion hindoue, mais je crois qu'elle était sikh. C'est ça en français, sikh, ouais. Elle est venue à notre église, elle a participé à une étude biblique et ma femme Renata était avec elle dans cette étude biblique-là pour femmes. Et elle a parlé du fait que, pendant un certain temps, elle a dû s'enfuir de la famille de son mari parce que sa belle famille essayait de l'empoisonner. Et à un moment donné, on n'était plus à l'étude biblique pendant quelques semaines, puis elle disait, ça peut quand même arriver, ça peut encore arriver de ces jours-ci, il faut tout le temps que je fasse attention avec ma belle famille. Et tout d'un coup, elle a arrêté de venir à l'étude biblique. Pendant plusieurs semaines, elle ne s'est pas pointée, il n'y a pas personne qui avait de nouvelles d'elle, il n'y a pas personne qui savait où est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle faisait. Et là, c'était la panique générale, là. C'était comme, OK, qu'est-ce qui est arrivé? Elle vient de nous raconter ça il y a comme 2 semaines, là, qu'elle pouvait se faire empoisonner par sa famille à cause de sa foi. Est-ce que c'est ça qui vient d'arriver? Est-ce qu'on devrait appeler la police? Elle n'est pas là. Finalement, elle était juste en vacances. Puis elle n'avait pas dit à personne. Mais c'est vrai, il y avait de la panique dans notre église parce qu'on se disait, quelqu'un parmi nous vient de se faire possiblement tuer pour sa foi. Donc, les nouveaux croyants qui viennent au Seigneur, normalement, ce n'est pas une petite décision qui est prise à la légère. C'est quelque chose de radical dans leur contexte et ils se font probablement expulser de leur famille, ils vont probablement recevoir des menaces de mort et ça se peut qu'ils soient défendus de retourner dans leur village natal, dans leur ville, pour le restant de leur vie. Dans des régions comme ça, qui sont très fortement musulmanes, on fait attention aussi à qu'est-ce qu'on traduit comme livre de la Bible en premier, parce que justement, on veut que la parole de Dieu soit reçue et on puisse rejoindre le plus de monde possible. Donc, dans un contexte très fortement musulman, on traduirait peut-être pas le livre de Marc, l'évangile de Marc en premier. On en a parlé mercredi à la discussion de café, mais c'est dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Fils de Dieu, Jésus étant le Fils de Dieu, c'est vraiment blasphématoire pour les musulmans. Donc, on commence souvent par des choses comme l'Ancien Testament, où on va retourner aux choses qui sont communes aux deux pensées, aux deux religions, mettons, et de voir où est-ce que... commencer par là et d'après ça, rajouter des choses qui sont différentes pour que, justement, ils puissent suivre un processus de compréhension de, OK, à quel point est-ce que c'est différent et où est-ce qu'ils sont les différences et pourquoi est-ce que je devrais croire ça plutôt que ça? Mais dans cette région-là, une des histoires qui me frappe quand même assez fortement, c'est une histoire où est-ce qu'il n'y a rien qui se passe. Je vous explique. Il y avait 2 croyants qui étaient baptisés dans une communauté. Et la communauté, on les appelle la communauté des bergers, parce que c'était des nomades qui s'occupent de des animaux. Ils sont mal vus par le restant de la population, sont maltraités, sont vus comme étant rien, comme étant ayant aucune valeur. Mais il y avait 2 gens qui sont venus au Seigneur avec le travail de traducteurs et le travail de traduction de la Bible qui se faisait, qui ont commencé à embarquer dans le travail de traduction. Et quand ces 2 croyants-là sont décédés, il y avait une grande partie de la population qui sont allés à leurs funérailles. Pour un d'eux, c'était 500 personnes à leurs funérailles. Mais ce qui était important pour eux quand ils sont décédés, c'était que l'Évangile soit partagé à leur communauté. Donc, il y a des gens qui sont levés à leur funérailles et qui ont fait un peu une présentation comme un eulogy, comment on appelle ça, quelque chose qu'ils disent à leur funérailles pour parler de leur vie. Et ils ont été très, très, très francs sur leur relation avec le Seigneur. Et normalement, dans ce genre de place-là, ils se feraient lapider, ils se feraient tuer, il y aurait une révolte dans le village, ça serait la fin du monde réellement pour ces gens-là. Mais je dis, c'est une histoire où est-ce qu'il y a... qu'il n'y a rien qui est arrivé parce que ça a été présenté et ce qu'on en comprend, c'est peut-être par respect pour les hommes qui sont décédés, les gens n'ont rien fait. Donc, dans une région où est-ce qu'on ne peut même pas dire qu'on est croyant, l'Évangile a été prêché à plus de 500 personnes en une journée et c'était correct. Ça a été accepté. Ça, c'est des choses que moi, je vois comme étant juste la grâce de Dieu qui permet ces genres d'affaires-là d'arriver. Ce n'était pas par leur propre force. Je pourrais en parler de ce projet-là encore un peu plus, mais je vais passer au prochain. Ah, en fait, ça, c'est une photo qui est quand même assez intéressante. À gauche, voilà une photo d'une application pour le téléphone cellulaire qui est utilisé pour apporter la Bible dans les mains des gens que s'ils se faisaient trouver avec ça, ils pourraient être emprisonnés parce qu'ils ont la parole de Dieu, parce qu'ils ont la Bible entre leurs mains. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rend ça disponible sur des applications cellulaires ou sur des petites cartes micro SD qui peuvent être entrées dans le côté du cellulaire ou qui peuvent être downloadées de l'Internet. Comme ça, si jamais ils savent qu'ils sont en danger ou qu'il y a quelqu'un qui est en train de surveiller leur village ou qui est en train de faire ci puis ça, puis ils ont des soupçons que peut-être qu'ils ont une Bible chez eux, ils peuvent l'effacer, ils peuvent le deleter, ils peuvent le cacher ou quelque chose comme ça. Ils peuvent le redownloader ou ils peuvent le remettre dans leur téléphone une heure plus tard si les gens sont partis, dans le fond. Donc ça, c'est une façon qui est utilisée assez régulièrement pour apporter la parole de Dieu dans des régions où est-ce que c'est pas permis. On a parlé de Kincha dans le coin de la Thaïlande. Il y a environ 70 à 80 langues dans cette région-là où est-ce qu'on travaille. Il y a environ 40 000 personnes avec qui on travaille, mais il y a environ moins de 1 000 croyants. Et c'est une place où est-ce qu'un pasteur qui se lève et qui prêche se fait menacer de mort, encore une fois, parce qu'il a prêché, par des extrémistes bouddhistes qui permettent pas ce genre d'enseignement-là. Non seulement ça, on travaille avec des langues minoritaires, des langues qui ont aucun statut dans le pays, et malgré le fait que quand même le gouvernement de ce pays-là dit qu'il y a une liberté religieuse, le niveau de difficulté qui embarque, en fait, c'est le fait qu'on n'a pas le droit de travailler avec des langues minoritaires et leur donner un statut. Ils veulent écraser les langues minoritaires, ils veulent écraser les petites populations pour pouvoir garder un genre de contrôle, pour être sûr qu'ils peuvent garder la langue principale du pays comme étant la langue importante et la langue de statut, la langue d'éducation, ici et ça. Au point où est-ce que, si on fait du travail avec des langues minoritaires, on peut être jeté en prison. Encore une fois, nos missionnaires n'ont même pas le droit d'entrer dans ce pays-là, même sous le nom de SIL, c'est refusé. Il faut qu'ils travaillent en Thaïlande, dans une section du pays qui a été permise pour que les gens du pays en question viennent en Thaïlande, à l'intérieur d'une certaine région, mettons qu'ils ont un territoire d'environ 5 à 10 kilomètres à la frontière, où est-ce qu'ils ont le droit d'entrer en Thaïlande, où est-ce que nous, on a des bureaux, où est-ce qu'on a nos missionnaires qui sont là, et les gens de la place, les gens de cet autre pays-là peuvent apporter toutes les données, apporter toutes leurs questions, apporter tout leur travail qui se fait, qui font dans le pays, et qu'on ait des gens qui vérifient le travail qui se fait, faire l'analyse des langues, travailler avec eux, puis tout ça. Mais il faut qu'ils sortent du pays dans une région qui est protégée, où ils ont le droit de se promener librement, même si c'est pas leur pays à eux, et ils vont pas se faire vérifier. Là, on peut travailler avec eux et apporter tout ce qui est nécessaire pour les aider avec la traduction de la Bible. C'est les croyants eux-mêmes qui nous demandent: venez nous aider, on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de ça. Dans cette région-là, il y a environ 70% des gens qui sont dépendants de drogue. Chaque jour, il y a environ 2 ou 3 personnes qui meurent à cause de overdose et à cause des drogues. Et les méthodes de réhabilitation, c'est basé sur la Bible et c'est basé sur des chants qui sont basés sur la Bible aussi. C'est ce qui est utilisé par les églises et par les croyants, les peu de croyants qui sont dans ces régions-là, pour rejoindre ceux qui ont tous ces problèmes-là. Mais le jour où le gouvernement va réaliser ce qu'on fait là, c'est sûr qu'il va y avoir de la grosse, grosse, grosse opposition, de la grosse persécution envers ceux qui travaillent dans ce projet-là. Donc, c'est encore une fois un travail très, très sensible. Et j'ai un ami à moi avec qui j'ai habité pendant 1 an qui travaille présentement dans cette place-là. Il n'est pas dans le pays, justement, parce qu'il n'a pas le droit, mais il travaille en Thaïlande, à la frontière, et il analyse la linguistique, il analyse les langues qui lui sont apportées, toutes les données qui sont collectées, et il aide à faire avancer le travail. Mais c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu, c'est quelqu'un qui est prêt à ce que si jamais c'était un problème dans cette région-là et qu'il y avait une genre de révolution, qu'il y avait des contraintes ou des choses qui étaient rajoutées, il pourrait être à risque lui aussi. Il vient du coin d'Ottawa. Le but, dans le fond, de tout ça, c'est de montrer que la traduction de la Bible, ça peut être fait un peu partout. Il peut y avoir des places où est-ce que c'est simple, où est-ce qu'on fait le travail, où est-ce que ça avance et tout ça. Mais il y a des places aussi où est-ce qu'il y a des gens ils risquent leur vie et que ça se passe de nos jours. Un de mes professeurs, quand j'ai étudié à Langley, il s'appelait Doug Trick, il a passé une vingtaine d'années ou quelque chose comme ça aux Philippines à faire la traduction. Et à chaque cours qu'il nous enseignait sur les principes de traduction, il nous disait tout le temps... Il faisait tout le temps un genre de devotional, un petit peu un partage au début. C'était souvent de son expérience sur le champ missionnaire ou son expérience de traduction ici et ça, puis ça avait rapport avec le cours. Mais une fois, il venait en avant, puis on voyait que
je sais pas si ça allait pas bien ou s'il avait de l'air, il avait de l'air de pas autant de bonne humeur et enthousiaste que d'habitude. Puis parce que lui a partagé, c'est, il a dit, c'est vraiment encourageant de voir le nombre d'étudiants qui sont ici présentement qui veulent étudier la traduction de la Bible. Mais c'est un peu un couteau à deux tranchants parce que de l'autre côté, je sais que certains de vous qui sont ici, certains parmi vous vont se rendre dans des régions où ils vont avoir besoin de donner leur vie pour le travail de traduction. Pour ceux qui étaient à One la semaine passée, Troy a partagé la même affaire. Troy, ceux qui étaient à One, là, pour les adultes qui n'étaient pas à la conférence jeunesse la semaine passée, ils ont fait des sessions sur l'évangélisation, comment partager notre foi et encourager les jeunes à faire ça, à rejoindre leurs amis, rejoindre les gens dans leur communauté avec l'évangile. Mais Troy Wiesner, a fait un, je pense qu'il a très bien partagé ça à la fin pour dire, écoutez, si vous répondez vraiment à l'appel de Dieu sur votre vie et que vous allez dans des régions et que vous vous sentez appelé à aller dans des régions qui sont difficiles, certains de vous devront probablement donner leur vie, votre vie, pour la cause de l'Évangile. Pour vous donner un petit aperçu de ce qui se passe présentement dans le niveau de la traduction de la Bible aussi dans le monde, il y a 7000 langues dans le monde. Je pense que j'ai déjà partagé ces statistiques-là ici la dernière fois, mais il y a 7000 langues dans le monde. Il y en a juste 2900 qui ont au moins un livre de la Bible de traduit. Il y en a 1333 qui ont le Nouveau Testament au complet, mais 554 sur 7000 qui ont la Bible au complet. Mais présentement, il y a plus que 2200 projets de traduction ou 2200 langues pour lesquelles il y a du travail de traduction qui se fait présentement. Il en reste environ 1800 à commencer. Puis notre vision avec Wycliffe, c'est que d'ici l'année 2025, toutes les langues, toutes ces 1800-là qui manquent, qu'on n'a pas encore commencé, on les commencerait d'ici l'année 2025. Si on fait un petit calcul rapide, c'est dans 9 ans, presque dans 8 ans, dans quelques mois. 8 ans et quelques mois. Mais qu'on pourrait commencer les projets de traduction dans toutes les langues du monde, c'est quelque chose de quand même assez incroyable. Et on croit aussi que pour ceux qui sont, mettons, dans ma génération, peut-être une génération un petit peu plus vieille, mais on va avoir la chance, justement, de vivre le moment où l'Évangile va avoir été apporté à toutes les nations, tous les peuples de la terre, dans toutes les langues. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Oui, Lise, elle applaudit, mais en tout cas, moi, ça m'excite, là, je ne sais pas pour vous autres, mais en pensant à tout ça, pensant à toutes les difficultés que certains vivent avec le partage de l'Évangile et qu'il y a une parole qui vient, qui est quand même encourageante du livre d'Ésaïe, ça dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu, quand elle est partagée, elle accomplit la volonté de Dieu, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on en fait, peu importe l'opposition qui est portée, elle accomplit sa volonté et ses desseins. Et je crois que ça, c'est une parole qui est très importante pour notre travail aussi, et c'est simplement une vérité. C'est dans le livre d'Apocalypse, ça dit « Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes, dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Et je crois vraiment qu'on peut le voir de notre vivant. J'espérais que tout le monde ici aurait la chance de voir ça. Et je crois que ça va arriver. Je crois absolument que ça va arriver avec les efforts qui sont faits. Le nombre de langues qui restent à traduire a diminué de plus de 500 dans les dernières 6 années. C'est plus que on est à une moyenne qui est aux alentours de 100 par année. Il reste mais 100 et un petit peu plus en fait. La façon que ça se dirige, ça commence à augmenter encore plus. Mais on devrait pouvoir se rendre à un point où est-ce que on va vraiment voir la traduction commencer dans toutes les langues du monde. C'est l'Évangile qui est apporté dans toutes les langues du monde d'ici l'année 2025. Si c'est pas 2025, puis c'est 2026, mais en tout cas vous m'en voudrez pas. Mais ça, c'est la vision qu'on a, c'est l'espoir qu'on a. Et c'est la raison principale pour laquelle je m'implique dans ce ministère-là. De voir ça arriver, de participer là-dedans, c'est quelque chose d'excitant. C'est quand même un point de tournant, pas juste pour ce qui arrive de nos jours, mais quand on y pense, sérieusement, c'est dans l'histoire de l'humanité qu'on s'implique. L'histoire de dans des comment on appelle ça? Amen. Des prophéties bibliques qui s'accomplissent, dans le fond. Donc, un passage, on a passé à travers un passage quand même assez rapidement pour voir quelles difficultés il pouvait avoir pour le partage de l'Évangile dans des places qui étaient difficiles. C'est quelque chose qui est peut-être difficile à penser que ça a un impact pour nous, le passage qu'on a lu plus tôt, mais les principaux points qu'on pouvait en sortir, justement, c'était là où les choses radicales se passent pour Dieu, l'opposition va augmenter. Deux, la vérité sera toujours confrontée par ceux qui se font dire qu'ils ont tort. Et trois, les promesses de Dieu s'accompliront peu importe les efforts ennemis. Je crois qu'on voit ça dans nos projets de traduction de la Bible qui se passent, mais je vous encourage aussi à y penser à qu'est-ce que ça veut dire quand moi je partage ma foi. Est-ce que je devrais m'attendre à ce que ça soit tout le temps bien reçu? Probablement pas. Mais est-ce que ça vaut la peine de continuer à le partager? Oui. Est-ce que Dieu va bénir notre travail? Oui. Peu importe l'opposition qu'on a, Dieu nous encourage et Dieu nous demande de continuer son œuvre. Donc, ce matin, en même temps, je vous invite à participer avec nous dans cette mission-là. Si jamais ça vous intéresse, il y a trois choses pour nous qui nous permettent de continuer notre travail. Le premier, c'est des ressources de gens, des personnes qui sont appelées à faire la traduction de la Bible. Dans mon rôle, j'ai la chance de jaser avec bien du monde. Mais une chose qui était excitante pour moi, c'est quand j'ai donné un cours la semaine passée à l'ETEC, où est-ce que j'ai rencontré un étudiant qui a dit « Quand tu es venu au mois de mars, tu nous as parlé des statistiques et de toutes ces choses-là, des gens qui n'ont pas la parole de Dieu dans leur langue. » Et depuis ce temps-là, ça me trotte dans la tête, ça me travaille le fait que ma communauté, dans ma langue, en Guinée, n'a pas la Bible. Et je suis en train de me poser la question « Est-ce que je devrais retourner et faire la traduction pour ma communauté, mon peuple ?» en Guinée, dans ma langue. Ça, là, ça me donne des frissons là, d'entendre ça, parce que des fois, on se dit, bon, bien, ce qu'on apporte, est-ce que ça a un impact ou pas? Est-ce que les gens répondent vraiment à ça? Mais de voir que ça a pris, il y a un processus de des mois qui se dit, hey, ça me trotte dans la tête, ça me travaille, le Seigneur m'a mis ça à cœur. C'est excitant pour moi là, d'entendre des choses comme ça. Donc, ça, c'est une façon que les gens peuvent s'impliquer. Peut-être que vous avez à cœur de vous impliquer d'une façon ou d'une autre. Hein? C'est possible. La deuxième, c'est par la prière. On a toutes sortes de projets qui se passent, des gens qui ont jamais reçu l'Évangile, mais qui ont accès pour la première fois. Puis c'est normal d'entendre des histoires de des gens qui disent « Wow, la Bible a été apportée dans ma langue, Dieu parle ma langue! » Et que tout d'un coup, on a des histoires comme ça qui viennent du Cameroun, que c'est sorti à plusieurs reprises, que les gens disent « J'ai toujours cru que c'était la religion de l'homme blanc, de l'homme de l'Ouest, et maintenant je vois que Dieu est aussi mon Dieu, Dieu parle ma langue. » Donc, priez pour ces gens-là, priez pour les peuples, priez pour les gens qui reçoivent la parole de Dieu pour la première fois, priez pour ceux qui sont persécutés pour leur travail, et priez aussi pour les missionnaires qui donnent leur vie et leur des années de leur vie pour faire avancer cette cause-là. Mais finalement aussi, il y a moyen d'aider aussi d'une façon financière qui est toujours très utile. Mon rôle, moi, principalement en Colombie-Britannique, c'est de m'assurer que tous nos projets internationaux ont les fonds nécessaires pour continuer à avancer. C'est quand même beaucoup de pression quand on y réfléchit parce que je me dis, un projet qui n'a pas l'argent n'avance pas. Un projet arrête parce qu'ils n'ont pas les fonds. Donc, un projet qui peut avoir deux ou trois traducteurs locaux avec quelques missionnaires qui sont là, puis ici, puis ça, avec une équipe, un bureau, puis ça coûte de l'argent à faire avancer. Mais s'il n'y a pas de l'argent qui rentre, les traducteurs qui sont payés pour faire le travail, il faut qu'ils trouvent un autre emploi, il faut qu'ils fassent autre chose. Il y en a qui se font laisser aller ou laisser mettre à la porte, mettons, parce qu'il n'y a juste pas les finances qui sont là. On a des travails de traduction que je regardais les rapports, un nouveau projet en République démocratique du Congo, je regardais les rapports et ça disait le travail avance plus lentement que ce à quoi on s'attendait parce que en fait, ils ont commencé à traduire Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais ils n'ont pas encore d'ordinateur sur lequel l'écrire, fait que tout est écrit à la main. Je me dis, oh my goodness, comme je vais aller chez Best Buy, on va acheter un laptop et on va le renvoyer. C'était pas la difficulté, mais je me dis, quand il y a des ressources comme ça qui manquent, c'est ridicule, à mon avis, que ça soit ça qui empêche que le travail avance. Donc, si vous voulez vous impliquer à avoir une partie là-dedans au niveau financier, j'ai mis des petits pamphlets à l'arrière dans le petit babillard aussi. Vous pouvez en prendre, vous pouvez prier là-dessus puis voir comment Dieu peut vous appeler à entrer en partenariat avec nous de façon financière aussi. Je peux vous partager toutes sortes de ressources aussi pour savoir comment prier pour ces projets-là. Et si ça vous intéresse aussi de participer dans la mission, vous pouvez m'en parler aussi. mais vous pouvez aussi aider au niveau financier, à m'aider moi dans mon ministère aussi. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'en parler aussi et ça me ferait grand plaisir. Mais je vous encouragerais de prier et de voir comment Dieu peut vous utiliser pour participer à cette mission-là. Ce n'est pas une petite mission, c'est une grande mission. Fait qu'on a besoin vraiment du soutien de tout le monde dans ce ministère-là. Donc, j'espère que ça peut être un encouragement, ce message-là un peu, de dire il y a des difficultés dans le monde, mais la tâche avance et Dieu nous bénit à travers tout ça.